par actualité. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 12 janvier 2017. Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter les paractualités du jour avec en titre aujourd'hui un diagnostic de paralysie cérébrale tardif pour un jeune garçon. Vous avez des collègues autistes. Comment parvenez-vous à communiquer avec eux? Et puis de bons résultats pour la CSS, la commission scolaire des Samars. Du hockey pour la sclérose en plaques à Lévis. La centralisation des services pour enfants autistes au Nouveau-Brunswick qui inquiète des parents. Et puis en Suisse, une découverte primordiale, une neuroprothèse contre la paralysie. Du côté des entretiens, je vais d'abord avoir un entretien avec Chloé Barry, qui est responsable du service d'accueil, des services d'accueil, pardon, de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Et puis également, je vais m'entretenir avec Aurélie Broussoulou du service aux membres et communication du RACOR. Ça nous vient de TVA Nouvelles. Les parents de Jérémy ont fait confiance à leur médecin. Ils ont cru que les difficultés que leur fils éprouvait à l'école allaient s'effacer avec le temps. Quelques années plus tard, un premier diagnostic de paralysie cérébrale légère et d'une déficience intellectuelle légère est tombé l'été dernier. On en parlait à notre médecin, mais on se faisait toujours dire « Mais non, inquiète-toi pas, ça va se replacer, tout va rentrer dans l'ordre », dit sa mère. On était un peu ignorants, si on veut, parce qu'on se fiait à la parole du médecin qui le suivait. Même s'ils se doutaient que quelque chose n'allait pas, ils se sont fiés à la seule parole de leur médecin et n'ont pas poussé plus loin leur démarche. En juillet, les parents de Jérémy, 13 ans, ont reçu ce diagnostic avec difficulté. C'est un coup de poing dans la face, avoue son père. Ça a été épouvantable. J'ai pleuré quand j'ai su ça. Les parents de Jérémy avaient vu des signes qui démontraient que l'évolution de leur fils différait de celle d'autres enfants. Tout ce qui était motricité fine, faire des blocs Lego, tout ça, Jérémy n'était pas capable, explique sa mère. Depuis que le diagnostic est tombé, Jérémy peut fréquenter un centre de réadaptation, ce qui l'aide à progresser. Ses parents regrettent aujourd'hui qu'il n'ait pas eu accès à ses services. Plus tôt, de savoir qu'on a perdu toutes ces années-là, ça ne passe pas, ajoute la maman de Jérémy. Alors il lance maintenant ce message aux autres parents. Il faut s'écouter en tant que parent. Si on a des doutes en arrière de la tête, ça ne coûte rien d'aller demander un deuxième avis. Finalement, il faut pousser. Il faut aller plus loin, conclut la maman. Dans le journal de Montréal, dans les pages emploi et information, on pouvait trouver cet article. Comment parvenez-vous à communiquer avec eux? Derrière le « eux » se cachent vos collègues et amis autistes, avec qui vous travaillez donc dans la même entreprise. Alors, comment parvenir à communiquer avec vos collègues autistes? Eh bien, c'est une question fréquemment posée à l'entourage d'individus ayant ce trouble du spectre de l'autisme, le TSA, par tous ceux qui aimeraient entrer en contact avec ces derniers. La relative complexité de ce trouble et la méconnaissance du public en général sur le sujet font de la communication avec les autistes un défi pour la majorité des gens. Alors voici quelques conseils susceptibles de vous mettre peut-être sur la bonne voie. Ne parlez pas trop fort et évitez de toucher la personne autiste de manière inattendue. Exprimez-vous le plus simplement possible sans utiliser d'expressions à double sens ou de sous-entendus. Ne vous servez pas de votre malaise comme prétexte pour exclure la personne autiste de certaines activités. Entamez une discussion sur un sujet pour lequel votre interlocuteur a un intérêt. Chaque personne autiste est unique. Ces conseils sont donc indicatifs, au mieux, car il n'existe pas d'approche universelle. Plus vous apprendrez à connaître l'individu autiste et plus vous saurez comment vous comporter en sa présence. Il est primordial que vous soyez conscient des différences et des difficultés des personnes autistes qui sont naturellement les premières victimes de leur état. La retranscription de la conférence de la docteure Lorna Wing, traduite par Chantal Tréhin, que vous pouvez trouver sur le site web de la Fédération québécoise de l'autisme au www.autisme.qc.ca, vous permettra d'en apprendre davantage sur le sujet. « Alors, elle est responsable de l'accueil, des services d'accueil de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Elle va venir nous parler de quelques nouveautés, ma foi, fort intéressantes. Chloé Barry, bonjour.
Bonjour.
Ravie de vous avoir ce matin en notre compagnie. Merci de vous être déplacée
également.
Plaisir. Alors, Chloé, on parle, s'il vous plaît, d'aménagement, on parle de guidance, on parle... Quelles sont les nouveautés?
Alors, la grande bibliothèque, le rez-de-chaussée de la grande bibliothèque a subi un rafraîchissement au cours des deux, trois dernières années. Et un des éléments cruciaux de ce rafraîchissement du rez-de-chaussée, bon, qui était rendu nécessaire parce qu'après 10 ans et à 8000 visiteurs par jour, elle est usée, notre bibliothèque.
Ah oui, hein?
Et un des objectifs qu'on poursuivait, c'était de regrouper enfin, dirais-je, les collections, les services, le personnel et les équipements des services adaptés dans une seule zone du rez-de-chaussée. Parce qu'auparavant, c'était disséminé partout sur l'étage, ce qui, évidemment, est comme la pire chose à faire
pour des
personnes qui ont une déficience visuelle.
Absolument.
Qui devaient se promener un peu partout pour chercher les documents, après les équipements, tout ça. Donc là, maintenant, c'est vraiment une zone même de choix, c'est-à-dire que c'est tout de suite en face des ascenseurs principaux. On a là toutes les collections, donc les livres en gros caractères, les livres sonores adaptés, les livres en braille, toutes les nouveautés se retrouvent là. La salle avec les équipements multimédia adaptés, les postes adaptés sont là aussi. Le personnel est juste à côté avec un comptoir de service.
Fantastique.
Et donc là, maintenant, quelqu'un qui entre à la bibliothèque et qui exprime des besoins particuliers peut vraiment avoir tout l'ensemble de l'offre dans une seule zone.
Mm-hmm.
Et pour s'y rendre, on a aussi installé un chemin... en surface, qui permet aux personnes ayant une déficience visuelle et se promenant avec une canne vraiment de pouvoir rentrer dans ce grand espace sans se perdre et sans buter dans le quoi que ce soit.
À quoi ça ressemble, ça, au sol? C'est comme des éléments...
C'est un peu comme dans le métro.
Ah, d'accord, qui sont collés au
sol. Ce sont des
lamelles,
tactiles, qui permettent vraiment de bien se diriger
d'accord.
au bon endroit.
Très bonne idée. Mais ce n'est pas la seule bonne idée, hein, d'ailleurs.
Non.
On va parler du CAEB dans quelques secondes, minutes, mais je voudrais qu'on revienne sur un point parce que je sais que c'est un point crucial. Il y a encore beaucoup de gens, hein, Chloé Barry, qui pensent que ce service du SQLA, donc le service québécois du livre adapté, entre autres du livre audio ou du livre en braille ou du livre à grosses lettres, et n'est fait que pour les personnes qui sont non-voyantes.
Exact.
Et c'est pas vrai.
C'est pas vrai. On ratisse beaucoup plus large que ça. Il y a beaucoup de personnes qu'on n'arrive pas à atteindre parce qu'ils ne passent pas par des centres de réadaptation, parce qu'ils ont une dégénérescence progressive de la vision, par exemple dégénérescence maculaire ou perte partielle de la vision, et qui ignorent, ils continuent à se brûler le peu de vision qu'il leur reste sur des livres en gros caractères, alors qu'ils pourraient facilement avoir droit au service québécois du livre adapté, donc au livre en version sonore. Il suffit en fait d'avoir une attestation d'un professionnel de la santé. Et à ce moment-là, vous avez accès aux livres sonores. On n'a pas besoin d'attendre de ne plus vraiment du tout être capable de lire une seule lettre pour avoir accès à nos services. L'autre groupe qui ignore qu'ils ont, qui peuvent avoir recours à nos services, ce sont les gens qui sont atteints de dyslexie grave. On pense souvent à ce moment-là plutôt à des adolescents,
des jeunes. On avait fait une émission spéciale d'ailleurs ici là-dessus avec Lucie Robida. Parce qu'on trouve que c'est nécessaire. Quoi.
Et nous, on voit effectivement que la demande, il commence à arriver. Là. Ça arrive
souvent par
les professeurs, mais il suffit d'une attestation d'un orthophoniste ou d'un orthopédagogue dire que cet élève-là est incapable de lire de l'écrit imprimé et il aura accès à nos services. À ce moment-là, par ailleurs, il n'y aura pas le lecteur Victor là, pour lire les formats DAISY, mais il peut télécharger une application. Et notre collection s'en vient de plus en plus numérique, donc ça lui permet ça. Et un autre groupe qui l'ignore, c'est aussi, et là, ça peut même être un abonnement temporaire au SQLA, ça peut être une utilisation temporaire de nos services. Ce sont des gens qui auraient des pertes de motricité graves, qui les empêchent de tenir physiquement un document entre les mains.
Donc, c'est
vraiment trois groupes qui ont tout intérêt, en fait, à nous appeler.
Oui, exactement. Ou des gens accidentés qui sont peut-être momentanément, pendant 2, 3, 6 mois, qui ont l'incapacité de pouvoir utiliser leurs mains, leurs bras, bien sûr.
Voilà, exactement.
Bon.
Donc, je tenais à le rappeler en ce début d'année.
Vous faites bien parce que, d'ailleurs, je le rappellerai précisément moi-même dans le cadre de l'émission des livres plein les oreilles parce que c'est vrai que même moi, parfois, je commets l'erreur. On s'adresse un petit peu trop aux gens qui ont des problèmes de perception visuelle. Et là, ben non, il n'y a pas que ça.
Voilà.
Alors, c'est important que ça se sache, Chloé.
Oui.
Et puis, je voudrais que vous nous parliez, s'il vous plaît, des services du CAEB, parce oui. que je vous avouerai qu'il y a beaucoup de gens qui nous demandent, qui sont un petit peu, ils comprennent, mais en même temps, c'est un petit peu confus.
C'est un peu confus.
Éclaircissez-nous.
Je vous éclaircis. Le CAEB, c'est le Centre d'accès équitable aux bibliothèques. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est que l'INCA, l'Institut national canadien pour les aveugles, offrait auparavant la collection et le service de prêt à tous les Canadiens avec sa collection qui est majoritairement en anglais. Ils ont arrêté de s'occuper de la portion prêt et abonnement. Et c'est maintenant le CAEB qui s'en charge avec des alliances avec les bibliothèques municipales ailleurs au Canada. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est via les grandes bibliothèques s'abonnent, font un partenariat avec le CAEB et le pont se fait comme ça. Donc, au Québec, il nous fallait absolument une entente avec le CAEB pour s'assurer que tous les Québécois qui désiraient avoir encore accès aux collections de l'INCA, donc avoir des livres en anglais, mais pas que, ils ont aussi des journaux, des magazines, ils ont une collection aussi en français, puissent continuer à avoir accès à cette collection-là. Donc, l'entente a été signée à la fin de l'été. C'est un projet pilote d'un an et ça permet à tous les Québécois de continuer à avoir accès à la collection de l'INCA et aussi à tous les francophones
hors Québec,
d'avoir accès à notre collection en format numérique uniquement, parce que bon, on peut pas envoyer ça devenait un peu compliqué avec les CD. Mais toute notre collection numérique a été téléversée dans le fond de l'INCA, et donc là le prêt se fait de cette façon-là. Pour les Québécois, c'est en fait un processus finalement transparent, c'est-à-dire qu'auparavant, il fallait qu'un usager qui voulait à la fois la collection de l'INCA et du SQLA devait s'abonner aux deux. Maintenant, en s'abonnant au SQLA, nous, on offre tout de suite de dire « Voulez-vous également vous abonner au CAEB? »
Voilà.
Et à ce moment-là, le même abonnement sert pour les deux services. Ensuite, le service vraiment, disons, le service après-vente, le service à la clientèle est assuré par le CAEB pour cette collection-là et chez nous aussi. Mais au moins, il n'y a qu'un seul point de service au départ qui est chez nous. Et ça vaut la peine parce que c'est quand même 100 000 titres, la collection de l'INCA. Comme je vous disais, majoritairement en anglais, mais il y a quand même aussi des journaux, des revues en français.
Oui.
Et c'est aussi l'accès à Bookshare qui, là, est vraiment qu'en anglais, mais c'est 270 000 titres numériques. Alors, c'est une offre vraiment intéressante.
Sûr.
Et justement, les jeunes souffrant de dyslexie sont très nombreux à aller vers Bookshare, vu que c'est du numérique.
Écoutez, tout ça est fort satisfaisant, je dois dire, d'apprendre toutes ces bonnes nouvelles, surtout que vous en parlez avec une très belle éloquence, et c'est très agréable de vous entendre, Chloé. Je suis sûre que là, tout le monde a bien compris de quoi il s'agissait.
Et venez nous voir à la Grande Bibliothèque.
Oui, absolument. Et venez nous voir ici, parce qu'on travaille fort aussi.
Oui.
Merci beaucoup. C'était Chloé Barry du Service québécois du livre adapté pour BANQ. Merci beaucoup, Chloé.
Merci.
Alors, par actualité régionale maintenant, la commission scolaire des SAMAR, la CSS, a présenté le 19 décembre dernier son rapport annuel 2015-2016 et celui-ci mettait en valeur des résultats scolaires et la convention de partenariat avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur ainsi que les projets d'importance réalisés. Alors, la CSS a notamment remarqué en 2015-2016 une diminution du nombre d'élèves ayant interrompu leurs études parmi les élèves à risque, les élèves handicapés ou ceux en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. En effet, ce nombre est passé de 224 en 2012-2013 à 133 en 2015-2016. Et puis, l'une des grandes réussites de 2015-2016 pour la CSS, c'est également l'inauguration du pavillon de l'Espace Jeunesse, une école à vocation régionale qui accueille des élèves de 5 à 21 ans, présentant une déficience visuelle ou déficience intellectuelle moyenne à sévère associée à un trouble du spectre de l'autisme ou à un trouble de l'ordre de la psychopathologie, de même que les élèves présentant une déficience profonde. Alors, les moyens mis en place pour obtenir de tels résultats ont été de nombreuses activités faisant connaître les diplômes d'études professionnelles, l'association avec le réseau de la santé et des services sociaux en vue de soutenir les jeunes en difficulté et la formation du personnel enseignant dans les classes spécialisées. Et puis, près de 100 formations, en fait 98, dont 5 hors Québec, participeront à la 48e édition du tournoi national Atome Desjardins de Lévis, qui se déroulera du 16 au 29 janvier aux arénas André Lacroix et de Lévis. Et puis, nouveauté cette année, il y aura un match au profit de la sclérose en plaques Lévis-Chaudière-Appalaches, opposant d'anciens joueurs des Remparts de Québec à d'ex-joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Alors, Simon Gagné, Patrick Couture et Carl Gagné seront parmi les anciens qui sauteront sur la surface glacée. Nos attentes sont élevées pour ce match. Nous voulons remplir l'aréna pour la cause, a espéré M. Gagné. Les billets pour cette partie seront en vente dans différents commerces de la région. On l'appelle le réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale, autrement dit le RACOR. C'est un acronyme que vous allez beaucoup entendre dans les minutes qui suivent. Et j'ai au téléphone Aurélie Broussoulou, service aux membres et communication au RACOR. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
D'abord, est-ce que j'ai bien prononcé votre nom?
Oui, c'est parfait.
Parce que je me disais, bon, on peut, il n'y a pas de doute que le X ne doit pas se prononcer, mais j'étais quand même, sait-on jamais.
Oui, comme je dis souvent, c'est comme hibou, genou.
Oui, ben, d'ailleurs, j'ai failli, effectivement. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, peut-être dans un premier temps, que vous nous rappeliez la mission du RACOR, s'il vous plaît.
Alors, la mission du RACOR, c'est de soutenir, outiller et représenter les organismes communautaires et alternatifs de l'île de Montréal qui offrent en santé mentale. Mmh. On regroupe actuellement 90 organismes présents d'est en ouest, là, sur toute l'île.
Oui, en effet. Et donc, puis, qu'est-ce que vous offrez comme service spécifique, Aurélie?
Alors, on va dire, nous comme regroupement, c'est sûr qu'on offre des services directement plus aux organismes.
Bien sûr, bien sûr.
On les épaule dans leurs différents défis, on les aide sur des questions de financement. On essaye aussi de faire circuler l'information parce que tous les membres, c'est quand même des petits organismes, essayer de faire connaître leurs services, de rendre l'information disponible au grand public et aussi au réseau de la santé. Donc c'est vrai qu'on fait aussi, moi dans mon poste là, je m'occupe aussi de développer des formations ou de trouver des formations pour outiller des organismes par rapport à la santé mentale.
Et parlons-en justement de formation, parce que là il y en a une qui sera donnée et qui me semble vraiment essentielle au mois de février. Parlez-nous-en s'il vous plaît, Aurélie.
Oui, alors en février on organise la formation premiers soins en santé mentale. Qui correspondrait à un équivalent comme les premiers soins en santé physique.
Ah oui.
Cette formation, en fait, elle existe depuis longtemps, elle existe depuis une dizaine d'années, elle vient d'Australie. Oui. Et elle s'est ensuite développée dans différents pays, dont le Canada via la Commission santé mentale du Canada, qui est en train de former des instructeurs, en fait, qui seront certifiés pour la donner dans différentes provinces. Donc nous, on a été approchés par l'instructrice pour la province du Québec.
Oui.
Madame Jabour.
Oui.
Et donc on a trouvé ça super intéressant, fait qu'on a décidé de travailler avec elle pour offrir cette formation. Donc c'est sur 2 jours, c'est les 7 et 14 février.
Oui.
Le mois prochain, donc, c'est toute la journée, de 8h30 à 16h30. Donc, pour s'inscrire, en fait, on peut aller donc sur le
site. Ah oui, c'est ça.
Il y a une page dédiée pour la. Même en première page, dans l'accueil, il y a un lien direct pour aller sur la page.
D'accord.
Vous voulez être aller aux premiers soins en santé mentale. Il faut savoir donc que c'est ça. On a essayé de s'arranger au niveau du tarif pour que ça soit la formation vaut 400$ par personne. Mais là, pour les gens de la communauté, c'est 250$. Et pour les personnes qui proviendraient de nos organismes membres, on a, que ce soit l'équipe, les bénévoles ou personnes qui utilisent le service, c'est 100$. C'est ça. Fait qu'au niveau de la formation, je trouve que c'est vraiment intéressant.
Oui,
ça permet
qu'est-ce qu'on va apprendre, quoi?
En fait, c'est vraiment de reconnaître les signes et symptômes au niveau des problèmes de santé mentale, mais aussi toxicomanie.
Oui.
Qui parce que c'est quand même des problèmes qui sont souvent interreliés. C'est aussi d'apprendre aux gens à offrir une aide initiale, que ça soit de la part de monsieur, madame, tout le monde. Là. C'est vraiment pas, quand on parle de premiers soins, c'est vraiment comme les premiers soins physiques, c'est vraiment comme, là, il y a j'ai une personne devant moi qui va pas bien, qui a des propos suicidaires, bah, qu'est-ce que je peux faire dans la mesure de mes moyens aussi, oui. Mais des choses au moins qui sont... Ce que j'aime dans cette formation, c'est que c'est des choses réalistes que n'importe qui peut mettre en place pour accompagner la personne, rassurer les personnes qui se sentiraient pas bien, au niveau aussi de la détresse, de la dépendance, oui. Comment on peut accompagner la personne. Donc c'est vraiment des bases, même pour entre collègues, dans son milieu de travail, ou si des fois on intervient auprès de gens, mais pas forcément en santé mentale, mais que des fois on se retrouve, ben, c'est ça la santé mentale, on peut travailler dans d'autres domaines et puis être confronté à quelqu'un qui n'est pas bien, donc qui se sent pas bien. Donc ça c'est vraiment comme, moi j'aime beaucoup cette ouverture-là.
Bien sûr.
Donc c'est vraiment, puis les gens partent avec des documents pour pouvoir réappliquer les choses, avec, puis c'est vraiment, il faut vraiment voir ça comme un équivalent, comme en santé physique, c'est genre...
Oui, bien sûr, oui. On va apprendre à réanimer, tout ça.
Oui, puis c'est une formation quand même de très bonne qualité, parce qu'elle est accréditée par plusieurs ordres, au niveau des infirmières, des ressources humaines, des intervenants, l'ordre des intervenants psychosociaux. Donc c'est quand même une formation qui a une valeur, qui est quand même reconnue. Là.
Mais je me disais, Madame Broussoulou, Aurélie, que c'est presque une formation qui devrait être obligatoire, par exemple, pour la police, pour des enseignants. Vous savez, là, je pense à ce jeune homme autiste, par exemple, qui a été bousculé par les policiers. La dernière chose à faire, c'était de le toucher, quoi, finalement. Bon.
Oui. J'avoue que c'est vrai qu'on en a, c'est ça, ce serait une formation qui s'appliquerait très bien pour les policiers, pour les gens dans le milieu de l'éducation.
Oui.
On espère pouvoir la faire connaître et faire des démarches en ce sens-là.
Mais oui, je vous le souhaite.
Parce que c'est vrai que vous avez raison, ça devrait être presque quelque chose qu'on devrait penser automatiquement autant que la santé physique.
Oui,
parce qu'on y est beaucoup plus exposé que on pense.
Oui, absolument. Et c'est vrai qu'on est souvent démunis.
Oui.
Absolument. Écoutez, tout ça est vraiment très, très intéressant. On va évidemment, comme toujours, manquer de temps. Vous savez comment c'est à la radio, Aurélie.
Oui.
Mais je voudrais aussi quand même qu'on parle au moins une petite minute. Là aussi, une coupure encore chez vous.
Alors, c'est vrai que l'année commence pas forcément bien pour tout le monde.
Oui.
Nous avons, il y a une dizaine d'organismes, dont un de nos membres, qui s'appelle Face à Face, qui est un centre d'écoute, d'entraide, qui offre vraiment une multitude de services, intervention au téléphone, intervention physique. Ils font des activités pour les membres. Ils sont situés dans le centre-ville de Montréal. Ils existent depuis 35 ans, puis ils ont appris pendant les fêtes que Centraide leur retirait complètement la subvention, qui est pour eux, ça représente 119 000 dollars, 50% de leur budget. Parce que, comme je ne sais pas si vous savez, mais Centraide a des difficultés dans ses campagnes de fonds. C'est sûr qu'on peut comprendre qu'à un moment, il y ait des coupes. C'est juste qu'au niveau de la façon, on trouve ça comme un petit peu violent.
Bien sûr.
Parce que le financement s'arrête donc là au mois de mars. Donc ça leur donne très peu de temps pour se retourner. Et puis, il faut savoir qu'on ne sait pas tous les organismes, on n'a pas eu la liste, mais je sais par exemple qu'il y a à Montréal, il y a l'organisme PIMO qui est en handicap physique aussi qui est coupé. Il y a différents secteurs qui peuvent être touchés, donc peut-être des organismes que même vous connaissez ou que vous travaillez.
Ben oui, bien sûr, oui.
Peut-être que certains ont été touchés. On n'a pas eu de liste officielle de la part de Centraide. C'est une situation à surveiller parce que c'est beaucoup de précarité pour les
Absolument.
Organismes. Si même au niveau de certaines grosses fondations, on peut se retrouver comme ça, coupé du jour au lendemain.
Absolument.
Ça augure des jours un peu difficiles.
Un peu difficiles, et je vous avouerai, Madame Broussoulou, qu'à cette émission, on entend tellement parler justement de coupures dans des services essentiels. On est mal, quoi. Bon, on va avoir un joli 375e anniversaire. À Montréal. Excusez-la, il y a des jours où elle s'échappe comme ça un peu.
Oui, moi, vous inquiétez pas, là, moi j'étais là avec notre membre, là j'avoue que j'étais pas de très bonne humeur.
Ben non, je comprends.
Par rapport à...
Je comprends.
Surtout qu'ils avaient été félicités dernièrement, fait qu'ils s'attendaient pas du tout à ça. Donc,
Bon, ben écoutez Aurélie, bon courage, tenez bon au raccord et puis au plaisir de vous reparler peut-être à un moment donné. Et
on, mais oui.
Hein, on va penser à vous. Allez.
Merci beaucoup, bonne
salut,
journée.
Salut, bonne journée, au revoir.
Au revoir.
Actualité nationale, la centralisation des services pour enfants autistes au Nouveau-Brunswick inquiète des parents. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a annoncé cette semaine qu'il remettrait la responsabilité de la gestion du programme d'intervention auprès des enfants autistes entre les mains d'un centre d'intervention spécialisé à Fredericton. Des parents craignent que ces changements ne bouleversent grandement le quotidien des enfants. Depuis 10 ans, le programme d'intervention auprès de ces enfants est géré par 6 entreprises indépendantes. Le ministère de l'Éducation et Développement de la Petite Enfance de la province estime pour sa part que cela permettra d'offrir une version améliorée du programme. C'est un gros choc, indique Mélanie Haché, la mère d'un enfant autiste. Celle-ci craint aussi que la transition soit difficile pour les gens qui travaillaient dans ces 6 agences. Denise Pelletier, qui a le contrat de gérer le programme, croit pour sa part que ce remaniement aura des conséquences positives. « Je pense que les familles vont être contentes des changements », a indiqué la directrice générale du Centre d'intervention en autisme de Fredericton. Madame Pelletier a tenu à se faire rassurante pour les parents. La réorganisation de l'administration du programme fait en sorte que les gens qui offrent des services aux enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme perdent temporairement leur emploi et doivent poser leur candidature à nouveau. Si on peut les assigner aux mêmes équipes, on va les assigner aux mêmes équipes. On va faire notre possible pour s'assurer que ce soit le plus positif pour tout le monde, pour les employés et surtout pour les familles et les clients, a répondu la directrice du programme. Et puis, quelques nouvelles en rafale pour refermer ces paractualités du jour. Les inscriptions pour la 2e édition du Festival international du film sur le handicap, le FIFH, sont ouvertes jusqu'au 31 mars 2017. Le FIFH est un événement culturel qui a pour but de réunir les femmes et les hommes participant à la promotion d'une différence créative, talentueuse et citoyenne. Vous pouvez soumettre vos films dans l'une des catégories suivantes, court-métrage, moins de 6 minutes, ou encore long-métrage. Handicap International et le FIFH sont maintenant partenaires. Dans ce cadre, un jury exceptionnel représentant cette association récompensera un film issu d'une sélection spéciale Handicap International. Les inscriptions sont gratuites. Pour vous inscrire, il suffit de télécharger la fiche d'inscription et le règlement sur le site du Festival international du film sur le handicap.fr. Voilà, ainsi se referme ce magazine pour aujourd'hui. En ce jeudi, merci de l'avoir suivi. C'était Clotilde Sey qui vous souhaite une belle fin de semaine et qui vous retrouve lundi dès 11h30. Merci à toute l'équipe.